18-19, le magazine.
Tard, hier au soir, t'as rencontré les flics. T'as pas eu le temps de t'expliquer. Allez hop, tu t'es retrouvé embarqué en garde à vue. En garde à vue. En garde à vue. En garde à vue. T'es pas prêt d'en sortir. T'es un peu bronzé, mais pas assez bien sapé. T'es chômeur ou smicard, les flics t'ont classé tricard. Les gars comme toi.
Bonsoir, c'est Ondes Noires, l'émission consacrée à l'actualité du polar. Et ce soir, nous avons la joie d'être avec Claude Mesplède. Claude Mesplède, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci de nous rejoindre.
Avec plaisir.
Donc, ça va être très difficile de vous présenter. Donc, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages consacrés au genre policier, en particulier des ouvrages sur la série noire et puis deux romans, un pour adultes, un pour enfants.
Voilà.
Et surtout en 2003, l'encyclopédie des littératures policières.
Oui, le dictionnaire des littératures policières.
Pardon, le dictionnaire, oui. Bref, selon certains, j'ai entendu il n'y a pas longtemps que vous êtes en quelque sorte le pape du polar.
Ça se dit.
Ça se dit. Mais enfin, je préfère un mot qui vous convient encore bien mieux, c'est passionné.
Voilà. Amateur, je crois que passionné.
Voilà. Alors, on aimerait discuter un petit peu avec vous d'un ouvrage, très joli ouvrage, qui s'appelle « Polar et films noirs », que vous avez commis avec François Guérif, qui est un spécialiste du film noir et qui est aussi le directeur de collection de Rivage Noir et Rivage Thriller.
On l'avait il y a quelque temps, ce même micro d'ailleurs.
C'est « Les 50 plus belles histoires » Timet Édition. Et je crois qu'il n'y a que vous qui pouvez en parler le mieux. Donc je vais vous demander de présenter l'ouvrage, s'il vous plaît.
Eh bien, si vous voulez, d'abord, je dois dire que j'ai été très heureux de le faire avec mon ami François Guérif, qui est quand même le seul éditeur au monde à avoir été couronné par les Américains meilleur éditeur de l'année, les autres étant tous des Américains. Et c'est une référence. Alors ça fait 25 ans qu'on se connaît, et avec François, et on n'avait jamais travaillé ensemble, tout au moins signé ensemble quelque chose, parce que j'ai été lecteur pour lui, il y a quelques années, des manuscrits de chez Rivage. Et là, c'était le bonheur d'écrire ensemble. Et donc, comment ça s'est passé? Bien, c'est une collection qui présente les 50 plus belles histoires de 36 sujets. Ça peut être le Festival de Cannes, ça peut être le Tour de France cycliste, ce que l'on veut, Zinedine Zidane, etc. Et nous, on a choisi le roman et le film noir parce que c'est notre passion. Et on a extrait de nos nombreuses connaissances 50 faits précis, c'est-à-dire la naissance du roman policier tout court avec Edgar Poe, après la naissance du roman noir avec Dashiell Hammett. Et on a expliqué ce qui se passait à ce moment-là dans le pays où c'est né. Puis on a fait des références au cinéma, Hitchcock, Gabin, Claude Chabrol, enfin tous ces grands qui ont illustré le cinéma policier quelque part.
Oui, je crois que c'était très très important d'ailleurs, outre le fait d'avoir la joie de travailler avec un homme comme François Guérif, le fait de relier le polar et le film noir, parce que c'est vraiment, s'il y a un genre littéraire qui s'allie bien au cinéma, c'est bien le roman noir.
Ah, tout à fait, parce que dès que le roman noir est né, c'est-à-dire en 22-23, 1922-23 aux États-Unis, les premiers scénaristes qu'on a appelés à Hollywood, c'était des auteurs de romans noirs, c'était Dashiell Hammett, c'était William Burnett, c'était Chandler, il y a eu Faulkner aussi, qui est quelque part un peu dans le roman noir, lui aussi.
Et qu'on trouve dans votre dictionnaire des littératures policières.
Tous ces types-là avaient une science des dialogues extraordinaire, et la science de raconter une histoire avec des ellipses, etc., comme le cinéma moderne le fait aujourd'hui. Et donc tous ces films qui sont sortis dans les années 30 étaient signés par les scénarios de ces gens-là.
Oui, on peut même revenir, il y a peu de gens qui savent que par exemple un scénariste, et Dieu sait s'il a été célèbre et connu pour ses dialogues, Michel Audiard, a commencé par écrire du roman noir.
Oui, du roman
noir. Il a publié chez Fleuve Noir, me semble-t-il.
Voilà, il a publié chez Fleuve-Noir, où ils n'étaient pas très bien payés d'ailleurs, parce que là aussi c'est une tentation naturelle d'abord de faire du cinéma, parce que c'est intéressant d'écrire des dialogues, mais aussi on gagne beaucoup plus qu'à faire des livres, ça c'est certain.
J'adore d'ailleurs, je vais juste me permettre de citer donc un petit extrait du livre de Michel, enfin une citation de Michel Audiard. Il dit « Pour moi, les scénaristes devraient être romanciers, c'est là qu'il faudrait taper. Seulement, comme les producteurs ne lisent pas de livres, ça complique le jeu. » Ça explique beaucoup de choses, je trouve, d'ailleurs, hein, sur le cinéma actuel. Donc, des histoires, je pense que vous en avez des centaines et des centaines dans vos deux besaces, entre François Guérif et vous-même. Comment, pourquoi avoir choisi celle-là ? Par exemple, il y en a une qui m'a beaucoup interpellée, parce que je ne la connaissais pas, c'est la saga de l'Introuvable. D'Achat Lamette, on pense tout de suite, La Moisson Rouge, on pense... L'Introuvable, c'est...
Ben, L'Introuvable, c'est une comédie, en quelque sorte, que Westlake a analysée. Westlake, c'est un autre auteur américain que vous connaissez bien. Qui l'analysait récemment, enfin récemment, ça fait quelques années déjà, comme le livre le plus désabusé de Hamet, même s'il le présente sous la forme d'une comédie. Mais surtout, il remet dans son livre des personnages qui sont lui et Lilian Hellman, qui était sa compagne, et il les fait revivre sous cette forme-là, en racontant ses dîners mondains, enfin toute cette vie un peu artificielle qui était la leur. Et donc, c'est le livre qui a eu le plus de succès. Pour Hamet, c'est très curieux ça.
Parce oui, parce que c'est. Il me semble qu'il est oublié maintenant, il me semble.
Peut-être, mais.
On en parle moins.
À l'époque, c'est celui qui a vraiment cartonné au niveau des ventes, parce que c'était une espèce de comédie à l'américaine, ces comédies pétillantes d'esprit, et à la fois en même temps une comédie policière. Et ça avait un côté qui touchait plus largement le public que les livres plus engagés que sont. Le Faucon de Malte et La Moisson Rouge, surtout. Mm. Alors, vous voulez que je vous raconte une histoire sur La Moisson Rouge, tiens. La Moisson Rouge, c'est sur les traductions. Il y a des choses étonnantes. La première phrase du livre, on nous explique que le narrateur nous dit, la première fois que j'arrivais à Personneville, c'est la ville où il est, j'appris qu'on l'avait surnommé Poisonville par un mineur rouquin qui était dans le bar. Voilà la traduction à peu près de la phrase anglaise. Alors en espagnol, ça devient la même chose, un mineur rouquin. Et en français, ça devient un rouquin prétentiaire, parce qu'on suppose que le terme employé pour dire un mineur en anglais, le traducteur français ne le connaissait pas, il a traduit un prétentiaire, ce qui est assez curieux, quoi.
Ouais.
Et surtout qu'il n'indique pas au lecteur qu'on est dans une ville minière, alors que c'est l'intention de l'auteur dès la deuxième ligne. Mais alors le pire, c'est atteint par les Espagnols, qui avaient la très bonne traduction jusqu'à présent. Cette année, en 2006, ils ont sorti une nouvelle traduction de La Moisson Rouge, et le mineur est devenu un coupeur de canne à sucre dans la traduction.
Ah oui, effectivement, oui.
Oui. Alors je suppose qu'il voulait exporter le livre à Cuba, ou qu'il a été traduit là-bas, mais c'est très étrange, quoi. Parce
oui.
que ça se déroule dans le Montana, et il n'y a pas beaucoup de coupeurs de canne à sucre dans le Montana, à ma connaissance.
Et il ne me semble pas, mais bon, il y a peut-être quelques vallées bien encaissées, bien ensoleillées, mais...
Où on fait pousser la canne à sucre, là.
Voilà, mais je pense qu'effectivement, mais de toute façon, c'est
ça. C'est
vrai que les problèmes de traduction, c'est pas évident. Alors, on repasse en Europe, en feuilletant ce livre qui est un régal justement vraiment à feuilleter et à picorer, parce que c'est des histoires très différentes les unes des autres. On parle aussi d'un auteur qui est un petit peu oublié aujourd'hui, même si son personnage a donné des films absolument fantastiques, c'est Norbert Jacques.
Ah ben Norbert Jacques, oui, c'était un luxembourgeois. Qui a été naturalisé allemand après, et qui a mis en scène ce fameux docteur Mabuse.
Docteur Mabuse.
Donc certains ont dit que il préfigurait la chute d'Hitler, alors qu'il a écrit ça en 1921, Hitler n'était même pas au pouvoir. Donc il y a des gens qui ont des visions sur les livres un peu prémonitoires.
Il y en a même qui ont des idées farfelues des fois sur les livres, mais c'est autre chose.
Il dépeignait simplement une atmosphère de l'après-guerre en Allemagne, où on était déçu pour avoir perdu la guerre, et où on était complètement désabusé, et les gens se prenaient à jouer dans des tas de tripots, et il y avait ce docteur Mabuse qui hypnotisait les joueurs et puis qui ramassait la mise, et puis après il a fait bien des choses bien plus graves, quoi. Il a enlevé une femme qu'il aimait à un type qu'il aimait pas, etc., etc. Puis il a dirigé tout un gang. Et donc il y a un procureur qui le traque, et ça va être le récit de cette traque policière pour mettre à mal ce génie du mal qui est justement un espèce de fantomas à l'allemande, quoi.
Alors, en citant quelques-uns de vos rôles dans le polar, j'ai complètement oublié de dire que vous avez été directeur de collection, et en particulier aux éditions du Rocher, où oui. Il y avait la bibliothèque du mystère. Donc, justement, est-ce qu'on peut trouver toujours Docteur Mabuse et la suite?
Absolument, il est toujours en vente. Je pense qu'il n'y avait aucune raison de pilonner un livre pareil.
Non, tout à fait.
Il avait été traduit en 1945 dans une petite maison d'édition, mais traduit comme d'habitude avec des coupes importantes, des coupes franches. Et là, on a traduit la version intégrale, c'est une nouvelle traduction intégrale, et on a fait mieux, on a sorti ensuite le testament du docteur Mabuse, qui est le deuxième bouquin qui a été inédit en France et qui a donné aussi un film de Fritz Lang après le docteur Mabuse, le joueur.
Alors, ce qui m'a vraiment frappé en feuilletant et en picorant, comme je le disais, ces histoires, c'est de voir à quel point on a alternativement les personnages et les auteurs. Il y a vraiment une symbiose entre certains écrivains et puis leur œuvre. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de caractéristique du roman noir et aussi... l'intérêt de connaître des choses, par exemple, sur Jim Thompson. Il y a c'est très, très jolie double page sur Jim Thompson.
Oui.
Et puis, quelqu'un que vous avez bien connu et dont j'aimerais quand même qu'on évoque la mémoire, c'est Robin Cook.
Oui, bien sûr, mais vous avez raison de souligner que les personnages sont quelque chose de très important dans la littérature policière. Essayez de demander à quelqu'un, dans la littérature générale, s'il se rappelle un personnage. Peut-être il y en aura un ou deux, mais moi, il n'y en a aucun qui me vient à l'idée, à part Tom Sawyer. Et par contre, tout le monde connaît Arsène Lupin, tout le monde connaît...
Maigret. Alors que certainement, beaucoup de gens ne sauront pas dire qui l'a écrit.
Et Sherlock Holmes, quand Conan Doyle a arrêté d'écrire les aventures de Sherlock Holmes, il a reçu... Sa mère ne lui a plus parlé. Il y a eu 3 grèves de mineurs dans le Pays de Galles. Et il y a eu 2 interpellations ou 3 à la Chambre des communes pour dire que c'était un...
Et on ne parle même pas des coupeurs de canne à sucre dans le Montana.
Non, c'est pour dire. Alors, pour reparler de Jim Thompson, mais Jim Thompson, c'est un des auteurs les plus désespérés que aient connu les États-Unis, parce que c'était un type sans cesse en bascule avec son père. Son père était d'abord était shérif, il est né dans une prison, Jim Thompson, pour commencer sa vie, c'est déjà pas mal, ça. Parce que son père était shérif, puis il est parti exploiter des champs de pétrole, parce qu'il voulait gagner beaucoup d'argent. Alors, une année, il gagnait beaucoup, l'année d'après, il perdait tout, et ainsi de suite. Et son fils, il le considérait comme un espèce de grouillot qui écrivait dans un journal à 15 ans des nouvelles et des trucs comme ça, c'est-à-dire un petit pas sérieux qui fait rien pour gagner sa vie. Et il a toujours eu ce divorce entre la vocation de Thompson qui était d'écrire et son père qui considérait que c'était une stupidité d'écrire, il fallait faire des travaux actifs comme lui pour gagner de l'argent. Alors la fin du père est tragique parce qu'il avait été laissé dans une maison, disons, de retraite, ça n'existait pas encore, mais une espèce de mouroir comme il y en avait dans cette époque-là, dans les années 40. Et Thompson voulait le faire sortir dès que son livre aurait été vendu et qu'il aurait touché un peu d'argent. Et le père s'est étouffé en avalant la bourre de son matelas. Il a déchiré son matelas, il s'est gavé de bourre pour se suicider comme ça. Et ça a naturellement eu un choc sur ce pauvre Jim Thompson qui, une fois de plus, s'est dit « Jusqu'à la fin de sa vie, mon père n'a jamais cru en moi ». C'est pour ça que vous trouverez dans tous ses livres, ou presque, des relations entre un fils et son père qui sont assez difficiles, c'est décrit sous différentes formes, bien sûr, mais parce que ça a été le drame de sa vie, un des drames, parce qu'il en a eu d'autres, mais celui-là en particulier. Alors maintenant, Robin Cook, vous voulez que je vous parle de Robin Cook?
Oui, s'il vous plaît.
Un homme extraordinaire.
Je vous interromps pour simplement citer le titre de l'article qui lui est consacré, qui est L'humaniste au béret noir.
Marqué, et puis c'est un type à qui je pense beaucoup. Il y a lui et Michel Legrand, ce sont 2 personnes à qui je pense... 3 ou 4 fois par semaine, parce que ce sont des gens qui étaient des gens exceptionnels pour moi. Alors lui, par exemple, il est mort, il a laissé 500 livres au bistrot du coin pour que tous ses copains viennent voir à sa santé. Et ses dernières paroles, que je connais par cœur, c'est de dire à son infirmière, « Votre mari a beaucoup de chance. » Je crois que des choses comme ça, il y a peu de gens qui sont originaux à ce point pour les prononcer, d'autant qu'il était d'une maigreur à la fin de sa vie. On aurait dit qu'il sortait d'un camp de la mort. Et je l'ai interviewé 8 jours avant son décès. Il se mettait debout droit pour que je prenne des photos que je n'ai jamais publiées d'ailleurs parce que c'était insoutenable. Mais il prenait la pause, il faisait des efforts pour répondre, il était extraordinaire.
Ouais, je pense que c'était vraiment un humaniste qui pensait aux autres d'une manière, et ça transparaît à travers beaucoup de ses écrits.
Oui, c'est pas seulement un humaniste, c'est aussi un grand auteur. Hein.
Oui, j'ai parlé de l'homme, c'est vrai qu'il faudrait parler de ses écrits, bien sûr, mais moi, je l'aime pour les deux raisons, mais ses écrits, c'est des livres glaciaux. Je pense que celui qui est le plus accessible, parce qu'il y en a qui sont difficiles à lire, surtout si on commence à lire du roman noir qu'on n'en a pas lu jusqu'à présent, le plus beau pour moi, c'est « Comment vivent les morts », qui est un livre d'amour en même temps, et qui est un magnifique roman, tout court. Parlons pas de roman noir, disons un roman tout simplement, et qui parle de l'amour et de la mort avec beaucoup de passion, de tendresse, de sensibilité. Parce que c'était un type d'une sensibilité extrême. Il était, il disait, moi je veux savoir pourquoi ce vieillard est mort par ce froid à l'angle d'une porte cochère. On relance le problème des SDF là, mais c'est vrai que lui il le voyait, il le vivait vraiment. Il n'était pas un hypocrite comme certains qui en parlent. Et qui n'en passe pas un mot, lui, il le pensait réellement. Et quand il avait de l'argent, il l'utilisait pour tous ces gens. Quoi.
C'était aussi un homme très généreux. Alors, pour revenir au livre, ce qui est intéressant, c'est que de très belles histoires, très bien écrites, mais aussi un livre, on va dire, très pratique, puisque à la fin, vous avez pensé à un historique. Alors, j'étais étonnée, ça commence à 1734, cet historique.
Oui.
Les causes célèbres de François Gaillot de Pitaval.
Oui, c'est ce qui a inspiré les Allemands, ça. Mais on aurait pu mettre d'autres choses, parce que vous savez, il y en a qui font remonter ça à Zadig et Voltaire avec le...
Oh, j'en ai même connu qui reviennent à la Bible.
Oui, ou on peut les fables d'Ésope aussi avec le renard qui voit rentrer des trucs chez le lion puis qui ne veut jamais ressortir les traces de pas. Quoi. Non, mais il faut rester sérieux. Disons que 1700 et quelques, c'est la bonne année. Mais il n'y a qu'un oubli. C'est que j'ai oublié de marquer la revue Polar, qui est dirigée par François Guérif et créée par lui, ce qui est quand même lamentable de ma part.
Bah, surtout en écrivant à deux mains avec François Guérif.
Ouais.
Mais il aurait pu y penser aussi.
Bah, c'est-à-dire, ça s'est fait un peu dans la précipitation, ces listes, et on n'a pas eu tout à fait le temps de se relire complètement.
Ce que je trouve très très intéressant, c'est aussi une liste des sites internet où on peut trouver des informations très récentes et donc suivre vraiment l'actualité du roman noir.
Oui.
Ça, c'est vraiment important.
Beaucoup.
Alors, le dictionnaire des littératures policières, justement, en actualité, en 2007, on va pouvoir enfin retoucher un livre qui est maintenant épuisé.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il sera prêt pour mars, fin mars. Ben, il est bien engagé. Déjà, le premier volume est pratiquement terminé. Je veux dire par là qu'on a changé aussi tout un tas de photos hein, pour pas que ce soit le même livre que celui qu'on a fait la première fois. Puis on corrige au fur et à mesure. On trouve des petites coquilles de temps en temps. C'est très curieux. Des choses qui nous avaient totalement échappé.
Ah, je crois que...
Par exemple, je vous en donne une. C'est stupide, mais c'est rigolo en même temps. Il y a des types qui ont écrit dans des collections. Il y en a une qui s'appelait Gallo. Chez Dupuis, c'était Dupuis, c'est un éditeur belge, et Gallo, c'est une collection de westerns. Alors, comme on met tous les livres écrits par les gens, on met aussi les westerns. Et le Gallo, on avait mis l'abréviation Gall, c'est devenu Gallimard.
Ah oui, effectivement.
Alors, on s'est aperçu de ça hier, ça fait trois ans que c'est dans le livre. Hein. Donc, on va corriger ça, puis d'autres petites choses de ce style. Quoi.
Voilà, et eh bien, il nous reste juste une minute pour que, puisque... Vous savez beaucoup, beaucoup de choses sur Roman Noir. Qu'est-ce que vous conseilleriez comme achat à Noël? Ça peut être des livres ou ça peut être des DVD, hein?
Oui, oui, bien sûr. Moi, je parle, je vous signale, mais c'est pas du polar ni du roman noir, mais il y a une excellente réédition de Gladiator, qui est un film magnifique, avec trois DVD dedans pour 14 euros. C'est franchement quelque chose de tout à fait...
Ouais, exceptionnel.
Honnête. Il y a aussi un film de Jacques Brel. Vous savez, Jacques Brel, c'est un auteur de cinéma, un réalisateur de films qui n'est pas très très connu en France, mais qui a fait des belles choses.
Il a fait de belles adaptations de livres.
Un film avec Eddie Mitchell. Et voilà que je ne me rappelle plus si. Voilà. Ça s'appelle Un printemps à Paris. Il y a Eddie Mitchell, Jean-François Balmer. Et c'est un film dont il m'avait parlé à Frontignan, mais que je n'avais pas vu à l'époque. Il y a aussi Sagamore Stévenin, le petit jeune fils de... Et Pierre Santini, qui à un moment donné avait joué un rôle de flic, je ne me rappelle plus, à la télé. Alors ça s'appelle Un printemps à Paris, de Jacques Brel. Deux DVD pour 14 euros, c'est bien, c'est également un petit prix. Alors dans le domaine des romans, moi je ne fais pas forcément des livres d'actualité. Je crois qu'il y a deux romans extraordinaires. Ce sont deux romans italiens, non, un roman italien qui s'appelle Macaroni, de Loriano Machiavelli.
Ah oui, nous en parlions il y a 15 jours avec...
Que j'ai jamais lu dans ce domaine. Et puis il y a le roman espagnol de González Ledesma qui s'appelle...
La Dame de Cachemire.
La Dame de Cachemire,
tout à fait.
En folio pour un petit prix, mais qui est un grand livre aussi.
Ouais, c'est un très très beau cadeau à offrir.
Plaisir à des gens sensibles. Eh bien, offrez-leur ces livres et vous aurez qui seront très satisfaits.
Ben, je vous remercie beaucoup, Claude Mesplède. Et puis, on vous laisse retourner à vos fiches du dictionnaire.
Et à très bientôt.
À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.